Radio Okapi. Grande interview.
Les élections de 2018-2019 en République démocratique du Congo ont été émaillées de plusieurs dérapages qu'il faille tirer des leçons pour améliorer le prochain cycle électoral en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort du rapport général d'observation des scrutins combinés directs et indirects de 2018-2019 présenté jeudi dernier par la CIMOCEL, la synergie des missions d'observation citoyenne des élections. Pour en parler, grande interview reçoit le chef de mission de la CIMOCEL, Bishop Abraham Djamba. Produite avec le concours de Kelly Nkouté, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Merci de rester à l'écoute. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue à Grande Interview, votre émission hebdomadaire. Nous recevons dans ce numéro Bishop Abraham Djamba, chef de mission de la CIMOCEL. Monsieur Abraham Djamba, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié un rapport final ou définitif des observations électorales en République démocratique du Congo. À quoi va servir ce rapport 3 mois après l'investiture du chef de l'État?
Ce rapport va servir d'abord à alimenter la réflexion sur ce qui a été le processus électoral. En réalité, une mission d'observation, c'est une mission d'évaluation. Et donc, nous avons vécu un processus électoral qui avait ses moments de force et des moments de faiblesse. Eh bien, il va falloir qu'on puisse tirer des leçons. Donc, nous proposons donc de pouvoir verser donc à la réflexion qui va prendre place certainement après ce processus, et même qui a déjà pris place, pour que dans les mesures ou les solutions qui vont être trouvées, que nous puissions apporter notre contribution.
Comment avez-vous procédé pour documenter tous les faits relayés dans ce rapport?
D'abord, c'est une mission de longue haleine. Nous avons eu ce qu'on appelle une observation de long terme. Nous avions des observateurs depuis les débuts du processus, même un peu plus avant, parce qu'il fallait les former, les préparer. Par la suite, il a fallu patiemment rassembler les éléments, les données qui remontent des terrains, à partir des fiches d'observation des observateurs, les données que nous pouvons aussi avoir par certains recoupements, certaines interviews, certains contacts avec les parties prenantes. Donc nous avons fait tout ce travail-là et c'est à partir de ça que nous pouvons nous exprimer. Donc ce sont là des analyses à partir des faits de terrain.
Aviez-vous suffisamment de moyens pour couvrir en observation électorale ce pays continent?
Il n'y a jamais eu suffisamment de moyens. On a fait avec les moyens qu'on avait. Comme vous dites, les pays continents, pour les couvrir, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de défis. Eh bien, avec ce qu'on avait, on a pu vraiment, avec beaucoup de sacrifices, arriver quand même à produire les résultats qu'on a.
Quelles sont les organisations qui vous ont financé pour être en mesure d'assurer l'observation électorale dès l'enrôlement des électeurs jusqu'à ce jour?
Nous sommes financés par l'Union européenne et par OCISA.
Entrons un peu dans le vif du rapport, un rapport général qui revient sur les élections présidentielles, législatives, provinciales. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce rapport en quelques lignes?
Ce que nous pouvons retenir de ce rapport, c'est que ce rapport donne des pistes après avoir analysé la situation, après avoir analysé le processus électoral. Ce rapport donne des pistes en ce qui concerne les traitements des résultats, en ce qui concerne les traitements des témoins et des observateurs, en ce qui concerne les juridictions qui sont en charge de connaître des contentieux électoraux, en ce qui concerne les médias. Et donc, il y a des pistes de solutions qui sont proposées dans ces rapports. Et en ce qui concerne la CENI elle-même, pour que si jamais on voudrait mieux faire demain, eh bien qu'on puisse s'alimenter à partir de cela. Je ne vous apprends rien quand j'ai dit par exemple que nous avons connu un processus difficile avec beaucoup d'irrégularités et ces choses ont été reconnues par toutes les parties prenantes. Mais nous sommes d'avis que l'on apprend mieux qu'avec ces erreurs. Parce que avec les erreurs, vous pouvez rentrer en vous-même et décider de dire plus jamais ça. Et donc, si ces erreurs sont correctement identifiées, ça commence par ce travail-là, eh bien, on peut alors pouvoir envisager comment améliorer. Et donc, tout le travail ici est proposé pour améliorer le processus électoral et pour l'amener donc à pouvoir se conformer davantage aux standards internationaux.
Et votre rapport revient sur quel point précisément? Vous avez parlé de 6 points. De quoi vous parlez dans votre rapport et en quoi il est différent des rapports que vous aviez publiés pendant le processus même?
Les 6 points dont nous parlons dans le rapport, c'est lié au processus. Il y a le contexte, il y a la période préélectorale, la période électorale et la période post-électorale. Mais aussi les autres aspects comme la machine à voter, les témoins, les observateurs, etc. Donc tous les éléments qui rentrent dans le processus électoral dans ces différentes étapes. Donc le rapport suit en fait les différentes étapes du processus électoral. Donc lié à cela que nous avons présenté ce rapport. En quoi il est différent? Eh bien, il est différent tout simplement par la profondeur de ces analyses. Parce que en réalité, les faits qui sont là-dedans, ce sont des faits que nous avions déjà présentés. Donc, nous avons fait un rassemblage de tous les rapports que nous avions publiés et nous regardons avec un certain recul encore ce que nous avions observé et nous faisons des analyses beaucoup plus approfondies pour proposer des recommandations pertinentes.
Vous êtes à l'écoute de grandes interviews sur Radio Okapi. Nous recevons dans ce numéro le bishop Abraham Djamba. Il est chef de mission de la CIMOCEL qui venait de publier son rapport final sur l'observation des élections directes et indirectes de 2018 et 2019. Alors, bishop, rentrons un peu sur les faits pour revenir un peu sur ce qui s'est passé réellement au cours du processus électoral. D'après vos observations, comparativement aux résultats publiés par la CENI, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ces résultats?
Bon, une mission d'observation n'est pas principalement là pour se retrouver dans les résultats. Ça, c'est la part des candidats. Ceux qui ont postulé doivent pouvoir se préoccuper de savoir si les résultats ils se retrouvent comme on le dit ici ou pas. Mais la mission d'observation veille à ce que tout se passe correctement. Donc nous faisons en fait ce qu'on peut dire une observation de la qualité du processus. Si le processus est de qualité, le reste va suivre. Les résultats, c'est comme on l'appelle la résultat, donc les conséquences de tout ce qui s'est passé, bien passé en amont, fait que les résultats aussi suivent. Donc pour nous, il y a des interrogations que nous avons par rapport à des aspects précis du processus. Et sur cette question des résultats, nous avons conseillé à la CENI de pouvoir publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ce qui est une demande tout à fait normale et légale parce que le législateur exige à la CENI de publier les résultats. Alors, publier les résultats, ça sert à quoi? Publier les résultats sert à pouvoir alimenter l'analyse des experts à la matière. Ça sert aussi à pouvoir, si vous voulez, aider les personnes qui étaient engagées comme candidats dans le processus à pouvoir rectifier les tirs là où peut-être ils ont connu des faiblesses, etc. Donc ça sert à beaucoup de choses. Donc tout ce qui concerne la production de la CENI et les décisions qui sont prises au niveau de la CENI, c'est de l'information publique. Donc ces informations-là doivent être mises à la disposition du public et principalement les résultats.
En rapport avec le contexte politique dans lequel ces élections se sont déroulées, pensez-vous que la CENI a réellement joui de son indépendance?
Le contexte politique et l'indépendance de la CENI, bon, il est vrai que le contexte dans lequel dans lesquels plutôt la CENI a évolué n'était pas facile. Comme vous le savez, il y a eu dépassement de mandat, il y a eu toutes les suspicions autour de la machine à voter, il y a eu beaucoup d'éléments qui faisaient que la tension était vive, surtout entre les partis de l'opposition et les partis de la majorité, la question du fichier électoral. Tout cela participe au contexte qui peut montrer que le contexte était tout à fait difficile. Est-ce que pour autant l'indépendance de la CENI devrait être entamée? Moi j'ai dit non. Donc ce n'est pas parce que le contexte est difficile qu'on doit, si vous voulez, abandonner son indépendance. L'indépendance de la CENI, c'est comme une prérogative, c'est un pouvoir, c'est un avantage qu'on donne à la CENI. Donc, une CENI doit normalement être jalouse de son indépendance. Alors, quant à dire maintenant, est-ce que la CENI actuelle a subi un coup dans son indépendance à cause du contexte, moi je n'irai pas jusque à conclure de manière péremptoire. Il faut prendre des éléments et les analyser, et je crois que la meilleure analyse, c'est aussi le temps. Le temps nous dira ce qui a été vraiment cette CENI.
Alors certains analystes pensent que le cadre juridique lui-même n'était pas favorable pour faciliter une élection beaucoup plus crédible en République démocratique du Congo, notamment la loi électorale qui avait des articles qui se contredisaient. Est-ce que vous avez aussi fait la même observation?
Oui, mais bon, on peut pas généraliser, hein. On peut pas. Vous savez, finalement, les textes là, quand on les applique, c'est une question de d'hommes aussi, une question de personnes. On peut avoir trouvé comme ça une ou deux dispositions qui sont imprécises dans la loi. On parle par exemple de l'article 68 qui ne dit pas exactement combien de PV. Quel est le nombre de PV qui doit être remis aux observateurs, qui se contredit dans l'article, l'alinéa 2, l'alinéa 4 et l'alinéa 5. Mais on ne peut pas s'arrêter à des petites imperfections de la loi comme ça pour dire que la loi ne permet pas. La loi congolaise, ou le cadre juridique électoral congolais en général est très très proche des standards internationaux. Je crois qu'il y a des larges pans des cadres juridiques internationaux qui s'inspirent des standards internationaux. En cela, on peut se féliciter d'avoir des bonnes lois. Mais cela n'empêche qu'on puisse trouver matière à améliorer la loi.
Et dans votre rapport, justement, vous avez proposé des réformes au regard des faiblesses que vous aviez observées.
Absolument, parce que tout part du cadre juridique. Il faut qu'il y ait des réformes, parce que ce n'est pas parce qu'on propose une réforme que la loi est mauvaise nécessairement. On propose une réforme pour pouvoir s'adapter, par exemple, au contexte, pour pouvoir évoluer avec son temps, n'est-ce pas ? Voyez la machine à voter. Aujourd'hui, on a utilisé la machine à voter, mais la machine à voter ne figure pas dans la loi. Si on adopte la machine à voter, il va falloir légiférer sur la machine à voter. Il faut que la loi régisse le fonctionnement de la machine à voter. Qu'est-ce qu'on doit faire désormais de fiches des résultats générés par la machine? Toutes ces questions-là. Donc ça demande qu'il y ait une certaine réforme pour que ces questions-là soient prises en compte. Donc, mais aussi avec toutes les difficultés que le processus a connues, nous avons dit que, en tout cas, il serait grand temps qu'il y ait une bonne réforme bien réfléchie, qu'on n'y aille pas par précipitation, mais une bonne réforme électorale pour que nous puissions avoir désormais un processus électoral dans notre pays qui ne pose pas beaucoup de problèmes.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro Bishop Abraham Djamba, chef de mission de la CIMOCEL. Bishop, parlons à présent du déroulement même du processus et des différentes des forces et des faiblesses que vous aviez observées. Déjà, le fichier électoral a posé problème avec un nombre important d'électeurs sans empreinte digitale. À votre avis, pour éviter des faiblesses pareilles dans l'avenir, que proposeriez-vous ? Est-ce que l'essentiel serait de passer directement au recensement ou il faut envisager une autre réforme dans le cadre de l'enrôlement même des électeurs ?
Disons que le système qui est là, comme je disais encore une fois, c'est une question d'homme. Comment expliquer que 16,6% des Congolais se retrouvent dans le fichier électoral sans empreinte ? C'est quand même hallucinant, ça. Et on a remarqué, il y avait près de 6 millions, je crois, de doublons. Tout cela arrive, pourquoi ? Parce que tout simplement, les hommes qui sont chargés de pouvoir mettre en œuvre les mesures qu'on prend pour l'identification, l'enrôlement des électeurs ont certaines faiblesses qui fait que justement au bout de compte on peut être disons au niveau national en train d'attendre un fichier qui soit correct et tout cela qui soit fiable mais au bout de compte vous avez un fichier dont on vous dit qu'il est corrompu parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a ceci. Alors donc il y a donc une réflexion aussi à mener à ce niveau-là pour que avant d'arriver même au niveau du recensement, si cela n'est pas possible encore d'arriver à ce recensement général de la population, c'est que ce serait une bonne chose, qu'on voie comment prendre des mesures pour encadrer l'identification et l'enrôlement des électeurs, de sorte que on ne puisse pas connaître. Vous avez parlé de dérapage au début, ça vient de vous, ça ne vient pas de moi. Mais qu'on ne puisse pas connaître certaines situations qui s'apparentent à des dérapages. Donc en cela, par exemple, on peut davantage écouter les missions d'observation, quand ils font leurs observations, ce sont des missions crédibles, il faut écouter leurs observations, il faut que les partis politiques eux-mêmes aussi s'intéressent à ces étapes du processus électoral, parce que ce qui arrive souvent, c'est que les partis politiques ne se réveillent que quand il s'agit de déposer leur candidature, encore que il faut encore attendre la campagne électorale, etc. Mais le processus électoral, c'est dès aujourd'hui là qu'il faut s'y intéresser. Les partis politiques devaient être plus intéressés que nous au processus électoral maintenant, parce que dans les lois qui vont être prises, il faut s'assurer que ces lois-là soient impersonnelles. Il faut s'assurer que ces lois-là soient précises, soient claires, soient exhaustives. Il faut faire en sorte que les lois qui vont être prises puissent véritablement rencontrer les points de vue de tous. Et avec cette harmonisation, on peut arriver à des résultats. Donc, avec la question de l'identification et l'enrôlement des électeurs, c'est aussi une question de mécanisme mécanismes qu'on doit mettre sur pied pour pouvoir surveiller en fait l'identification afin que les agents ne soient pas livrés à eux-mêmes pour faire n'importe quoi.
Entre les dépôts des candidatures à la présidentielle, aux législatives et aux provinciales, jusqu'à la publication des résultats des élections des gouverneurs, quels sont les dérapages majeurs que vous avriez enregistrés qui pourraient entacher à la vérité des urnes ?
Non, nous n'avons jamais parlé de dérapage. Dans aucun de nos rapports, vous allez trouver les mots « dérapage ». Parce que une mission d'observation s'exprime en des termes mesurés. Nous devons être responsables dans nos déclarations parce que nous, nous connaissons ou nous apprenons plus que les communs des mortels sur la question électorale. Donc, nous sommes en possession des données qui peuvent nous permettre de faire des analyses plus approfondies afin d'aider les pays. Donc, ce qu'on peut dire, il y a eu
des irrégularités,
c'est ce qui est retenu souvent. Il y a eu des irrégularités, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'identification. Et quand vous regardez nos rapports, nous avons cité toutes ces irrégularités-là régulièrement. Et donc, la dernière des irrégularités, c'est l'affichage des résultats. Nous l'avons dit à la CENI, nous continuons à le dire, il faut que la CENI affiche les résultats.
Et la CENI a utilisé les résultats transférés par les clés USB et les VESAT. Tout de suite, on suppose qu'ils n'ont pas tenu compte des résultats du dépouillement. On s'est plus intéressé aux résultats des machines à voter.
C'est pas comme ça qu'il faut. Non, c'est pas comme ça qu'il faut considérer les choses. Les résultats qui viennent de machines à voter sont des résultats valables si on peut les confronter avec d'autres éléments. C'est ça. Donc, ce n'est pas parce que ça vient de la machine à voter que c'est nécessairement mauvais. On vote par la machine à voter et les premiers résultats sortent de la machine à voter. Il y a une fiche qui est générée, une fiche de résultats qui est générée par la machine à voter. Donc, ce n'est pas parce que ça vient de la machine à voter que c'est nécessairement mauvais. Mais tout ce qui est demandé, c'est que ces résultats-là, qu'ils soient provenus de machines à voter ou manuellement, parce qu'il y a une partie que la CENI a recueillie avec les VESAT et une autre partie qui est venue de la compilation manuelle. Par exemple, les résultats des présidentielles ont été compilés jusqu'au dernier jour. Alors, donc maintenant, il faut que la CENI puisse faire en sorte que ces résultats-là servent dans les analyses, ne fût-ce que pour l'histoire. Donc ces résultats-là sont importants parce que c'est l'information. Il faut donner l'information aux populations.
Et comment croire aux résultats générés par la machine à voter alors qu'à quelques jours des élections, un incendie s'est déclaré mystérieusement et des machines étaient incendiées. Certains pensent même que ces machines étaient déplacées avant l'incendie.
Une machine qui génère les résultats n'est pas incendiée. C'est une machine qui fonctionne normalement.
Bon, certains pensent que des machines n'étaient pas incendiées, ils étaient déplacés pour des fins de fraude.
Non, nous ne réfléchissons pas comme cela. Si nous n'avons pas de faits vérifiés sur cela, nous ne pouvons pas affirmer ça. Évidemment, on a raconté beaucoup de choses sur la machine à voter. Il y a des allégations qui se sont confirmé. Par exemple, lorsqu'on disait que tel détenait la machine à voter, etc. Bon, c'est des questions que nous avons posées aussi à la CENI pour savoir comment expliquer que du matériel aussi sensible que cela puisse se retrouver entre les mains des particuliers. Mais on ne peut pas non plus commencer à spéculer. Il faut partir sur base des faits et il faut vérifier les faits pour que toute analyse que nous faisions, toute proposition soit crédible.
La toute dernière question, quelle perception avez-vous de la lutte aujourd'hui du candidat malheureux Martin Fayoulou qui revendique la vérité des urnes ?
Il est tout à fait libre. Je crois que le fait démontre qu'il est libre. Donc tout candidat, toute personne est libre de pouvoir se comporter selon ses convictions.
Ce n'est pas dépassé par rapport à la suite des événements aujourd'hui, 3 mois après l'installation du président de la République?
Mais nous, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'interview, nous sommes une mission d'observation. Nous sommes liés à la loi. Donc nous ne savons pas fonctionner en dehors de la loi. Un processus électoral, c'est d'abord le cadre juridique. C'est le cadre juridique qui fixe les règles du jeu. Les rôles sont distribués à partir du cadre juridique. Si vous lisez le cadre juridique, vous allez voir le rôle d'un observateur. Et on vous dit que l'observateur doit respecter la loi. Sinon, l'observateur est exposé à des poursuites. Alors, donc, maintenant, nous savons que les règles qui ont été posées dans ce processus électoral, c'est qu'on pose sa candidature. Si on ne pose pas sa candidature, si la candidature est validée par la CENI, eh bien, on peut y aller. Si elle n'est pas validée, eh bien, on va devant la Cour. On a vu ça et ça s'est passé de cette manière-là. Eh bien, après cela, il y a les élections. Il va y avoir les résultats provisoires proclamés par la CENI. Après, si on n'est pas d'accord avec cela, on va devant la Cour constitutionnelle. Et nous avons vu que dans ces cas, ceux qui étaient opposés à la publication des résultats de la CENI sont partis devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a tranché. Les règles du jeu disent que lorsque la Cour constitutionnelle s'est prononcée, il n'y a plus de recours. Alors donc, c'est pourquoi j'ai dit, chacun est libre de pouvoir adopter l'attitude qu'il veut. Mais pour nous, quand nous analysons le processus électoral, eh bien, nous considérons que l'étape de revendication est déjà dépassée.
Bishop Abraham Djamba, je vous remercie.
Merci.
Des grandes interviews, cette émission a été préparée par Kéline Kouté. Michel Kifindangoy vous l'a présenté. Merci de rester fidèle à Radio Okapi, fréquence de la paix. Merci et au revoir.